Bonsoir. La haute cour militaire de Kinshasa a ouvert vendredi 25 juillet le procès de l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila, poursuivi pour une dizaine de graves chefs d'inculpation. L'auditeur général des FARDC a listé une série d'infractions, notamment son implication en tant que co-initiateur du mouvement politico-militaire AFC dans la branche armée M23 soutenue par l'armée rwandaise et des mercenaires étrangers, fait prévu et puni par le code pénal congolais. L'audience introductive s'est déroulée en l'absence du prévenu. Le procès se tient donc par contumace avec la seule présence des avocats de la partie civile représentant la République. Cependant, le Conseil national du suivi de l'accord de Saint-Sylvestre, CENSA en sigle, appelle le gouvernement à suspendre le procès en cours contre l'ancien président Joseph Kabila. Cet organe d'appui à la démocratie estime que cette procédure judiciaire est inopportune et risque de compromettre les efforts de réconciliation nationale et d'alternance pacifique en RDC. Que pensez-vous de l'ouverture du procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila? Nous en parlons ce soir avec Ferdinand Kombéré. Il est avocat, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Maître Ferdinand Kombéré, bonsoir.
Bonsoir, Madame Teddy. Bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci. Avec moi dans ce studio, Alidor Chibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale UPEN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Alidor Chibanda, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly. Bonsoir aux auditeurs de Radio Capi et à mes co-débatteurs.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, Michel Lingepo Molonga. Il est avocat, sénateur élu de la Mungenra. Il est également cadre du MLC, parti membre de l'Union Sacrée. Avocat, vous suivez Kivu, nous suivez sous la 95.3. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, la haute cour militaire a ouvert vendredi 25 juillet le procès contre Joseph Kabila. À cette audience introductive, l'auditeur général des FARDC a exposé une dizaine d'inculpations retenues contre l'ancien président de la République et sénateur à vie, fait prévu et puni par le code pénal congolais. Il faut noter que le prévenu étant absent de Kinshasa, il est jugé par contumace. Seuls les avocats de la partie civile étaient présents au procès. Ils ont sollicité une remise pour le 31 juillet, donc demain, afin de compulser les pièces du dossier. Jeff Ngoy pour le reportage.
À l'entame du procès, le greffier fait savoir que plusieurs tentatives pour atteindre le sénateur à vie à sa résidence de Kinshasa en vue de lui signifier le mandat de sa comparution ont échoué. Il ressort de l'acte d'accusation plusieurs charges contre Joseph Kabila, notamment en tant que l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire AFC, avec pour branche armée M23 appuyée par RDF et les mercenaires de diverses nationalités dans la province du Nord Kivu, co-auteur pour avoir commis par l'intermédiaire de Corneille Nanga, coordonnateur du dit mouvement terroriste, l'homicide intentionnel de 31 personnes, une tentative d'homicide intentionnel sur 21 autres, l'occupation à force ouverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées. Dans la province du Sud Kivu, il est poursuivi en tant que co-auteur du chef des crimes de guerre dont les viols, les tortures, l'homicide intentionnel par balle, l'apologie des actes de terrorisme, déportation, participation à un mouvement insurrectionnel, autant de charges qui pèsent sur Kabila.
Merci Jeff Ngoy pour ce reportage. Monsieur Lingepo, bonsoir. Hein, juste à vous saluer. Vous venez de nous rejoindre dans ce studio de Radio Capi. Vous êtes sénateur et cadre du MLC. Alors Ferdinand Kambéré, je rappelle que vous êtes aussi avocat, hein, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Voilà, FCC en sigle. Alors pour commencer, votre première réaction par rapport à l'ouverture de ce procès contre Joseph Kabila, l'ancien président de la République.
Madame, merci encore pour cette opportunité que vous nous accordez. Ce procès, madame, notre réaction, c'est simplement un procès par lequel le régime Tshisekedi veut cacher son échec diplomatique, sa diplomatie de soumission, tout simplement. Et pour
Ce
qui s'est passé à Doha,
vous sortez entrecoupé, Ferdinand Kambéré. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne.
C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Il y a un écho qui me retourne tout le temps. C'est en essayant d'éviter cet écho-là que je ne sais pas si c'est un problème technique. Je n'ai pas accès à mon niveau.
Est-ce que vous avez activé le mode main libre?
Ah, je crois que c'est peut-être
c'est ça. C'est ça, oui. Désactiver ce mode-là, la qualité va s'améliorer.
Madame Kelly, que ça procède à honte pour nous, un théâtre qui est en train d'organiser Félix pour cacher l'échec de sa diplomatie de soumission, en réalité. Parce que quand il revient de Doha, même avant qu'il n'aille, quand ils étaient là, ce qu'ils distillaient dans la population, c'est qu'ils vont à Doha, ils vont obtenir la signature de la rébellion AFC M23, dès qu'il y a la signature, le M23 va se retirer de Goma, le Rwanda va se retirer de Goma, et Kabila, qui habite chez lui à Goma, aura des difficultés pour partir. Maintenant, devant cet échec-là, parce que quand il rentre, c'est comme l'exemple d'un élève, l'école buissonnière de l'IDPS, là, qui continue apparemment, qui ne va jamais à l'école, et quand on proclame, c'est tout le monde qui jubile. Et lorsqu'il voit tout le monde jubiler, et aussi jubile avec lui. Maintenant, devant la honte, aujourd'hui, ils ne savent plus expliquer pourquoi les M23 restent toujours à Goma. Pourquoi l'AFC M23, pourquoi les Rwandais ne quittent pas. Alors que ce sont des conséquences des négociations qui ont échoué depuis Luanda, Arusha et partout. On a demandé à Tshisekedi de négocier directement avec l'AFC M23 et qu'il disait que c'était une ligne rouge. Et maintenant, Doha, finalement, il a signé avec eux qu'ils ne partent pas tout de suite. Ils ont mis des préalables. Kabila n'était pas là. L'ancien président n'était pas là. Vous vous imaginez, deuxièmement, aujourd'hui, ils sont en train de l'appeler co-initiateur de l'AFC. C'est pas moi, quoi. Donc, un complice. Mais un complice entre-temps, vous êtes en train de négocier avec ceux-là, d'ailleurs, pour les mêmes faits qui ont été condamnés et à des peines. Tout le monde avait suivi un procès en 2024 ici. Bon, ceux-là, maintenant, ils deviennent propres, ce qu'on pouvait appeler les auteurs directs. Et maintenant, il faut rechercher dans la honte et dans l'obscurité un petit procès contre un ancien président de la République qui opine publiquement. Son discours du 23 mai était clair, et contre qui aucun rapport, que ce soit celui où ils ont commencé à négocier la feuille de route de Luanda, aucun rapport d'Arusha, aucun rapport des Nations Unies, aucun rapport à Washington. Kabila n'a jamais été cité pour apporter un quelconque soutien à ces AFC M23. Les derniers rapports des experts des Nations Unies, madame, ils ne l'ont pas cité. Alors que nous avons, nous, des rapports des experts des Nations Unies qui ont toujours cité l'IDPS depuis 2012, qui était avec les M23, et tout ce que l'IDPS, sinon le régime en place, est en train de faire, les faits en faveur du M23.
Et donc,
hier, on nous disait que ce sont les Américains. Aujourd'hui, c'est qui vont amener des troupes ici pour déloger les M23. Aujourd'hui, sur RFI, c'est autre chose. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas amener des militaires au sol. Ça, ce n'est pas la première fois. L'autre fois, quand ils ont fait entrer les M23 à partir de Bunagana et qu'ils trompaient tout le monde, que c'était les troupes kenyanes qui allaient entrer pour chasser les M23. On a vu les troupes kenyanes entrer. Est-ce qu'ils les avaient chassées? Madame, on est devant. Je salue la position de Sensa qui voit qui a tout échoué dans les négociations et qui est en train de plonger les pays dans des accords, en réalité de paix que de non, mais en réalité où c'est des apports des accords de trahison de
merci.
Des accords de trahison.
Merci, perdu notre mère, on vous garde.
Et trahi, on
vous garde. On va s'écouter,
là,
s'il vous plaît. Perdu notre mère, s'il vous plaît.
Mais l'Ouganda est toujours là.
Perdu notre mère, on va vous redonner la parole.
On a encore massacré.
Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire.
Perdu notre
mère, oulala. C'est difficile de vous arrêter.
C'est dernièrement. Perdu notre mère. Ce procès ici ferait quoi?
Perdinand Kambere, s'il vous plaît.
Voilà.
On vous a suivi. Perdinand Kambere, on vous a suivi. On va vous redonner la parole, s'il vous plaît. On va vous redonner la parole, Perdinand Kambere. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous n'êtes pas seul dans ce débat. On a deux autres co-débatteurs à qui on a aussi donné la parole. On retient pour vous que c'est un procès de la honte. C'est du théâtre qui sont que la majorité au pouvoir est en train de faire. Michel Linguepo, vous êtes avocat, sénateur élu de la Mongala, cadre du MLC, parti politique de l'Union Sacrée. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès théâtre, comme l'a dit Ferdinand Kambere?
Merci de la parole accordée, madame. Moi, je pense que nous sommes ici pour débattre la question liée au procès qui a été ouvert par la haute cour militaire.
Mm-hmm.
Nous ne sommes pas ici pour discuter les questions liées aux accords qui sont signés à Doha et par-ci par-là. Il y a un individu qui a été poursuivi pour ses actes criminels. Et il est question ici...
En lien avec la rébellion de l'FSM-23.
Justement, il est...
C'était et il y a un lien avec les accords.
Mais
il y a ces accords de Doha.
Non, madame. Il y a un lien. Il a agi en lien avec le M23, parce qu'en réalité, c'est que c'est Kabila qui est le patron, c'est lui qui patronne le M23, c'est depuis toujours quand il est au pouvoir. Et c'est lui qui a perpétré en fait plusieurs faits infractionnels pendant qu'il était au pouvoir, et lorsqu'il a quitté le pouvoir, comme les criminels reviennent toujours sur le lieu des crimes, il a toujours entretenu ses mouvements, et la justice congolaise voudrait quand même mettre fin à cette aventure.
Mais pourquoi négocier avec le M23 à Doha quand vous poursuivez son initiateur, comme vous le dites lui-même?
En fait, la négociation n'exclut pas la justice. Même la réconciliation n'exclut pas la justice. Nous devons négocier et nous devons aussi également faire la justice pour les faibles.
Mais là, on ne recherche plus la paix. Est-ce que ça ne risque pas d'entraver de poser des problèmes, problème par rapport à la paix?
Le problème par rapport à quoi? C'est là où vous passez aux aveux pour dire que Kabila est le vrai patron du FC.
Qui passe aux aveux?
C'est gens qui disent qu'il n'y aura pas la paix si on poursuit Kabila. C'est-à-dire que vous dites, effectivement, c'est lui qui est le vrai patron. Si vous poursuivez le vrai patron,
non, mais vous l'avez déjà dit vous-même qu'il est le
justement,
vrai patron.
C'est justement pour passer, pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Et nous disons pour nous, nous allions en négociation sans pour autant écarter la justice. La justice doit faire son travail. Et c'est par la justice que nous pouvons en fait rétablir la paix dans ces pays. Sans la justice, on ne peut pas en fait envisager autrement.
Alors, il y a une certaine opinion, hein.
Oui.
Ça vient pas de moi, hein. Les oui. auditeurs ont réagi, les gens ont donné leurs avis sur les sujets de ce soir. Certaines personnes pensent que on est en train de chercher la stabilité au niveau du pays. On parle de plus en plus du dialogue. L'ouverture de ce procès, est-ce une bonne chose, une bonne nouvelle pour la démocratie congolaise ou un risque pour son équilibre?
Non, en fait, madame, nous devons en fait aider nos compatriotes à comprendre une chose. Nous allions en négociation pour régler les problèmes politiques. Mais ceux qui ont pris des armes pour se faire attendre et qui a eu des victimes, et les victimes là n'ont pas droit à la justice, vous voulez qu'on écarte la question qui pose cette question-là, si c'était sa mère ou son père était décédé, allait accepter à ce que malgré des négociations, qu'on mette en fait la mort de ses parents à côté? Non, faisons la chose proprement. Je sais que la justice dérange la famille politique de Kabila. Et la justice dérange Kabila. Et la politique ne peut pas fermer la porte à la justice. Et lorsque vous dites que nous sommes dans un État, c'est-à-dire que c'est la primauté des droits sur la politique. Si c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est pratiquement l'État où les plus forts règnent. Vous détournez l'argent de l'État, vous fouillez, vous achetez les armes, vous venez affaiblir l'État congolais. Et lorsqu'on veut poser les problèmes, vous dites non, il n'y aura pas la justice. Nous devons changer les paradigmes de voir des choses.
Alors, on a suivi Ferdinand Kambere. Il dit les auteurs ou les responsables du M23 sont connus. Certains même sont cités dans les rapports des experts des Nations Unies. Nulle part, on cite le nom de Kabila.
Écoutez, je crois que les rapports des Nations Unies, ce sont les rapports de complémentarité par rapport à nos institutions. Nous avons des institutions qui fonctionnent, nous avons la justice qui fonctionne de manière indépendante. Nous le savons très bien que c'est Kabila qui est le vrai patron du AFC. C'est lui le vrai patron du M23. Tout ce qu'on nous dit, ce sont des prétextes, ce sont des faux fouillants. C'est l'organisation, comme M. Kambere. Il appartient au PPRD. Le PPRD, c'est la branche politique du M23 et AFC. Vous n'allez l'avoir jamais...
Ça c'est nouveau.
Vous n'allez l'avoir jamais condamné, les M23 et les AFC. Ce sont des branches politiques de ces structures, militaires. Et pour nous, parce qu'ici nous sommes venus débattre sur les problèmes liés au procès.
Quelle est la signification pour vous de l'ouverture de ce procès?
Pour moi,
oui.
En fait, c'est le message que nous donnons aux faibles qui ont été désespérés pour dire que comme nous allons à Doha, nous allons tout enterrer. C'est parmi des reproches qu'on a fait aux accords que nous avons signés à Washington comme à Doha, que nous avons mis les victimes à côté. Et pour nous, nous avons dit aux victimes, nous ne vous avons pas abandonné. Nous organisons
malgré
les prochaines
négociations.
Oui. En même temps, nous sommes en train de poursuivre les 20 patrons en fait des AFC et M23, dont le PPRD constitue la branche politique.
Merci. Ali Dortimanda, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa, enseignant à l'Université pédagogique nationale, UPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Votre réaction aussi par rapport à l'ouverture de ce procès contre Joseph Kabila.
Bon, dans une situation normale, nous allons dire bravo, parce que quand on ouvre un procès contre un homme comme Kabila, il est normal qu'on puisse croire à une justice dans un pays et croire qu'il n'y a pas d'homme fort et que nos institutions deviennent fortes et que les hommes sont tous faibles. Et c'est ça le sens qu'il faut donner dans un premier temps dans ce procès, si nous les considérons équitable, juste et répondant aux exigences légales. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture, c'est que nous sommes dans un processus de redéfinition de notre devenir collectif en tant que nation. Nous avons un gouvernement légitime à Kinshasa. Nous avons une partie des compatriotes qui prétendent avoir pris des armes pour s'opposer contre la dictature entre griffes qui serait en train de s'installer à Kinshasa. Et le gouvernement de Kinshasa a décidé de pacifier le pays, pas par la voie de la violence, mais d'user des négociations. Ceci voudrait dire qu'il doit accepter de mettre d'assainir l'espace pour permettre à ce que ces négociations qui s'annoncent se passent dans des conditions à sécuriser ou rassurer les uns et les autres. si nous prenons en compte le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous considérons Kabila est un acteur majeur, au même titre que le président Félix Tshisekedi, au même titre que ceux qui ont pris des armes, qui négocient, au même titre que Martin Fayoulou, au même titre que les autres qui se prétendent être en exil. Alors, parce que nous avons décidé d'aller en négociation, tous nous avons constaté que notre armée n'a pas pu répondre à ses missions régaliennes et que nous avons ouvert la voie au dialogue. Travaillons pour que nous puissions mettre d'abord tout le monde d'accord et qu'à la suite de cela, que les négociations qui vont s'ouvrir ne puissent pas empêcher que les crimes qui auraient été commis pendant la guerre, comme après la guerre, soient sanctionnés. Ça, c'est le deuxième avis que je peux donner dans ce cadre ici. Le troisième avis, je constate malheureusement, le sénateur en face est juriste, mais Ferdinand Kambere, juriste, ils ne sont pas d'accord sur la justice du pays. Les deux juristes, ils ne sont pas. C'est qu'il y a un problème qui se pose et sur lequel nous devons suffisamment réfléchir pour donner à l'État ses lettres de noblesse. Trop de négociations, notre État a toujours été affaibli. Qu'est-ce que nous devons faire pour que même à la suite de ces négociations, même si le gouvernement va accepter de taire la situation de poursuite contre Joseph Kabila, après les négociations, est-ce que nous n'allons pas créer encore des hommes forts en lien et place des institutions fortes? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui traduit effectivement que Sun City a échoué. Comprenez? Ça traduit effectivement que Sun City a échoué. Maintenant, au lieu de réfléchir sur les hommes, sur le procès, mettez en place une structure qui va réfléchir sur la pré-Sun City. Parce que ça n'existe plus. On a dit, à la suite de ça, si vous prenez la constitution que l'honorable nous a amenée, on dit, après plusieurs années d'illégitimité des institutions, après plusieurs années de guerre et de contradictions, nous avons tous décidé de nous mettre ensemble autour de ce pacte républicain pour un nouveau départ. Il y a eu 4 élections, si je ne m'abuse, 4 ou 5 aujourd'hui. 2006, 2011, 2018,
2023.
Mais nous continuons à vivre le même scénario. Je l'ai dit à l'émission passée sur le pacte social avec les dialogues. Nous continuons à vivre le même scénario. Est-ce que ce dialogue auquel tout le monde se mobilise va nous amener vers la paix définitive et l'édification d'une nation forte au cœur de l'Afrique? Ce sont là les interrogations sur lesquelles nous devons tabler au lieu de discuter des hommes.
Alors, on est sous le procès de Joseph Kabila. Est-ce opportun aujourd'hui ou pas d'organiser ce procès? Il y a par exemple le CENSA qui demande au gouvernement de suspendre le procès en cours. Voilà, cet organe estime que cette procédure risque de compromettre les efforts de réconciliation nationale.
Moi, je pose aussi une autre question au CENSA. Je me pose une question, peut-être qu'ils vont nous suivre. Je me pose, est-ce qu'on peut demander à un État de ne pas poursuivre des personnes censées avoir commis des infractions? Est-ce que nous construisons un État ou nous affaiblissons notre propre institution? Parce que c'est à l'État de dicter des lois, de les faire appliquer et de sanctionner les contrevenants. Mais dès lors qu'à un État on demande de suspendre un procès, on crée des hommes forts ou on crée des institutions fortes?
Au nom de la réconciliation nationale.
Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Mais sauf que le pouvoir public doit tenir compte du contexte. Comprendre que sans être contre ce que le CENSA demande, sans être aussi pour,
parce que je vois que l'État devient un jouet. On a pris les armes, les CSA se met au milieu pour dire non, non, ne faites pas ça. Vous, vous éduquez vos enfants, on vous dit de ne pas éduquer vos enfants. Donc, ça devient un problème. Nous, ce procès, avec les déclarations qui fusent de partout, traduisent que nous avons un problème de notre devenir en tant que nation. Nous avons un problème de construire un État. Vous comprenez? Je ne dirais pas qu'il n'existe pas, mais je le trouve très affaibli par des hommes. Très affaibli par des hommes. Parce que la meilleure définition d'un État, c'est la détention. L'État se matérialise par la détention du monopole de la violence légitime. Mais ce monopole-là est écartelé aujourd'hui. Entre le M23, entre les 500 qui demandent qu'on suspende la justice. Or, la justice est un des attributs régaliens de l'État. Parce que c'est à travers la justice que l'État doit mettre tout le monde d'accord. Doit harmoniser notre comportement vers un destin commun.
La même justice qualifiée de malade par le président de la République.
Mais il est au pouvoir, il doit faire un effort pour qu'elle cesse d'être malade. On ne se plaint pas quand on a le pouvoir. On se plaint quand on n'a pas le pouvoir. Là, on réfléchit sur ce qu'on pourrait faire si on a le pouvoir. Mais dès lors qu'on détient le pouvoir, on doit agir. Le pouvoir ne se plaint pas, il agit. On accède au pouvoir pour décider, pas pour... Lorsque ça ne marche pas, on réfléchit, on trouve des solutions pour voir comment les choses puissent marcher.
La réalisation me signale que le standard est prêt. On va l'ouvrir pour recevoir ces auditeurs qui sont nombreux à nous suivre des partout, qui veulent donner leur point de vue, leurs avis sur le thème de ce soir. Direction Lualaba, voilà, nous sommes dans la province du Lualaba, Kolwezi. On va écouter, non plutôt, l'auditeur est à Mutoshi, dans la province du Lualaba. On va l'écouter, puis on revient dans ce studio pour la suite de notre émission.
Dieudonné Bangué fils, hein, je vous appelle depuis la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Je suis convaincu que cette procédure judiciaire engagée contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pourrait à ce stade compromettre aux efforts de réconciliation nationale, certes, mais au regard, n'est-ce pas, de son statut d'ancien chef de l'État dans ce pays, et vu les griefs retenus à sa charge et les indices graves de culpabilité qui pèsent sur lui, moi j'estime que ces poursuites valent l'air pesant d'or, dans la mesure où, une fois le prévenu, Joseph Kabila est reconnu coupable par son juge naturel. Moi j'estime que la demande du CNSA ne tient pas la route à ce stade où nous parlons déjà du crime. Des guerres, encore faudra-t-il rappeler ici que nous sommes dans un pays des droits et le gouvernement ne peut pas interdire les acteurs de la justice de faire leur travail normalement. Sinon ce serait l'entrave à la démocratie et le peuple n'acceptera jamais une telle trahison.
Alors, votre réaction, Ferdinand Cambéré?
Que ce soit pour cet auditeur, que ce soit pour le professeur, qui il,
Alidor Tshibanda.
Alidor, et même l'autre de
Michel Lingepo, le sénateur Lingepo.
Tous disent la même chose. Tous disent la même chose, Teddy. Bon, l'État, c'est l'État. Le gouvernement ne peut pas interdire à la justice de faire son travail. Il y a des indices sérieux de culpabilité. Le vrai patron de l'AFC, c'est Kabila. C'est vraiment triste pour mon pays. C'est vraiment triste. Mais quand est-ce qu'un gouvernement négocie? C'est parce qu'il ne sait plus imposer sa puissance par son armée. Il ne sait plus imposer parce que la loi, je veux bien un État, pour imposer sa puissance, il vote des lois et il les impose. Et au besoin, s'il y a des gens qui les violent, il y a des décisions de justice. Mais quand il ne sait plus le faire, madame, je dis ici, vous avez dit que Kabila co-initiateur, ça veut dire qu'il y a un initiateur, mais dans tous ces processus, à Luanda, à Nairobi, à Arusha, j'ai demandé, ou à Doha, ou à Washington, j'ai demandé quand est-ce que ces gens qui sont, les régimes ici peuvent produire une seule résolution où Kabila a été cité d'être celui qui soutient ou d'être le co-initiateur ou l'initiateur ou celui qui appuie. Nulle part, aucun rapport des Nations Unies. Ils disent là que non, là c'est complémentaire, les rapports des Nations Unies, mais qu'à l'interne, il y a des institutions. Quelles institutions? Qui ont toutes démissionné? La justice dite malade? Quel est le rapport? Nous avons été interpellés à l'auditorat. Nulle part, il y avait des traces de poursuites de qui et de quoi que ce soit contre l'ancien président de la République. Il y a eu les procès Nanga qui avaient été initiés ici. Kabila n'avait pas été cité. Il y a même des condamnations. Maintenant, ceux-là qui ont été condamnés, à 2024, ils sont en train de négocier et ça honte aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont, ils ont une puissance comme État et ils vont exécuter. Quelle décision ils vont exécuter? Ils négocient parce que justement, ils ne sont ni en mesure de faire exécuter sur le territoire national les lois de la République. On négocie parce qu'on n'est pas en mesure d'exécuter même les décisions prises par les juridictions. C'est pour ça qu'on négocie. C'est pour ça qu'il y a un dialogue. Pas pour autre chose. Parce qu'il faut recouvrer ces territoires-là pour que nous restaurions l'autorité de l'État. Et ce terme est bien repris dans l'accord de principe signé entre les gouvernements, ces mêmes gouvernements qui organisent ces procès de honte, et les M23, qu'ils avaient fait condamner, qu'ils avaient condamné par toujours la cour militaire. Maintenant, Kabila, j'ai attendu celui-là du MLC, il dit, bon, nous voulons montrer, on nous avait reproché à Washington et à Doha de n'avoir pris en compte la population. Maintenant, il nous faut organiser un procès. Donc, on fait se servir du nom de Kabila pour tromper la population, que c'est maintenant condamnant toujours par ces justices aux ordres, que vous allez avoir l'acclamation de la population. Mais entre-temps, ce que vous signez là et qui compromettent la souveraineté sur nos ressources, la souveraineté sur nos territoires, ça, ce n'est pas compromettant. C'est un procès qui va vous sauver de tout ça. C'est triste, hein, c'est triste, Kelly. Et puis, on dit, bon, la justice, le gouvernement ne peut pas empêcher la justice. Il parle de quelle justice? À temps de guerre, la justice dont on parle, elle s'appelle la justice transitionnelle. Et c'est en dialogue, la justice transitionnelle a quatre piliers. Il y a d'abord la recherche de la vérité pour savoir pourquoi il y a eu cette nouvelle crise. J'entends celui-là qui est en train de dire que c'est Sansit qui a échoué. Sansit n'a pas échoué, monsieur le professeur. Ce qui a échoué, c'est le régime d'imposer la constitution. C'est le régime qui a échoué d'imposer ces décisions prises sans avoir des soubassements, parce que chaque fois qu'ils sont dans les débats ailleurs, mais pourquoi ils sont si faibles devant les M23? Pourquoi ils sont si faibles devant le Rwanda? C'est parce qu'ils ont signé des accords qui sont jusqu'à aujourd'hui cachés, qui ne veulent pas montrer à la place publique.
Le FCC,
tout le monde partout, on leur demande de négocier.
Alors, le FCC rejette donc toutes les accusations contre Joseph Kabila. C'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu présent à l'audience.
Non, justement, on ne peut pas aller légitimer. Vous voyez bien que les intentions, on veut se servir de ces procès pour couvrir la honte de Washington, pour couvrir la honte de Doha. Ça fait 10 jours qu'il devait déjà être encore une fois à Doha, en train de signer. Mais les 10 jours, ils ont fait quoi? Le gouvernement a son discours par rapport à ces accords-là, et entre-temps, les M23 son discours. Aujourd'hui, en lisant aux informations, on nous dit que l'autre ministre qui a signé à Douala a fait, présenter cet accord au Parlement rwandais. Mais les nôtres, pourquoi il n'y a pas de vrai débat? Pourquoi c'est toujours le cas de l'élève qui en réalité a échoué et ne s'est pas expliqué aux parents, montrer les bulletins où il a 18%, mais qui est dans les rues et partout dans les universités, je vois l'État faire la vulgarisation de quoi? De quoi? Parce que c'est des écrits.
Merci.
C'est la vérité de ce qui se passe là-bas. C'est ça qu'on leur demande.
Merci beaucoup. On va se rendre à Chabunda, au sud Kivu, pour écouter cet autre auditeur qui est en ligne.
Maître David Massandi Chabani, depuis Chabunda au Sidki. La procédure suivie pour traîner l'ancien chef de l'État en justice reste à désirer. Qui ne laisse à croire que les politiciens congolais se rendent compte au travers de la justice. Or, rien n'est à cacher. Le pouvoir actuel l'avait qualifié de malade. Est-ce qu'elle est déjà guérie? Étant donné la démarche de l'unité nationale fut lancée par le président de la République, inutile de créer d'autres tensions. On n'appelle jamais un chien et en tenant un bateau à la main. En réalité, ce dossier est fixé devant la haute cour sans que toutes les preuves soient réunies, démontrant la culpabilité. Le CNSA a raison, car ce procès semble être politique. L'essentiel est de faire revenir la paix durable dans l'unité et la cohésion nationale.
Alors, je vais ajouter cette autre réaction de Paul Moulos. Ce procès est une perte de temps. Le président de la République n'a pas de bons conseillers. Vous dites que Kabila est M23, vous négociez avec le M23. Est-ce que vous voulez vraiment terminer cette guerre ou vous sacrifiez la population vivant dans la partie Est? À mon humble avis, les négociations initiées par la CENCO et les CC restent les seuls moyens le seul moyen pour trouver la paix dans ce pays. Alors, sénateur Lingepo, comment vous répondez à ces Congolais qui nous envoient des réactions?
En fait, moi, je voudrais dire à la population ou à nos auditeurs qui nous envoient des questions pour dire que si nous voulons un état des droits, il faut qu'il y ait la primauté de la justice vis-à-vis de la politique. Si nous maintenons cette philosophie, c'est-à-dire que c'est la politique qui prend en fait le dessus du droit. Quelle que soit la circonstance que nous nous retrouvons, ou la situation ou l'état de la justice, nous devons faire un effort d'appliquer la justice. C'est ça pour que la nation soit élevée.
Même si elle a des conséquences sur la cohésion nationale?
La conséquence sur la cohésion nationale, parce que vous parlez de la conséquence sur le plan national. Madame, vous savez que Kabila nous a rendu un très mauvais service dans ces pays. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'était sa planification. Il le savait avant de quitter le pouvoir.
Vous avez des preuves?
Mais je suis en train de peser très bien mes mots. Parce que quand vous prenez la loi sur les anciens chefs de l'État, on a fait de lui les conseillers de la République de manière permanente. Où il ne peut pas se détacher en fait de la République.
Il a l'obligation. Ça sera le cas pour tout ancien chef, ancien président de la République.
Justement, madame. C'est-à-dire qu'il a de l'obligation de réserve. Cette loi-là énumère des obligations. Et quand vous prenez cette loi-là, vous analysez, vous voyez tout là que Kabila a tout violé. Et c'est quelqu'un qui est allé à Goma pour se repositionner politiquement. Et c'est le sang des Congolais qui les brandit pour retourner au pouvoir. Si vous faites ceci, il n'y aura pas la paix. Si vous faites ceci, nous n'allons pas nous réconcilier. C'est le sang des Congolais que Kamberela a avec son chef Kabila. Et qu'ils font ça des chantages au peuple congolais. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous devons appliquer la justice et c'est le prix à payer. Lorsqu'on dit le gouvernement a signé les accords avec le Rwanda, mais vous savez que le régime de Kabila et de Kamberé a été toujours au service du Rwanda. Ce sont des situations que le président de la République a héritées. Vous n'allez jamais voir Kabila en train de condamner les Rwandais. Vous n'allez voir jamais Kamberé en train de condamner les Rwandais. Kabila a été à Goma. Une fois ici, j'ai posé la question à Nyarugabo. J'ai dit, mais pourquoi il n'est pas allé rendre visite aux victimes de la guerre? Ce sont des gens qui ont planifié leur politique avec les Rwandais, où ils sont les agents du Rwanda au Congo. Et il faut brandir en fait le sang des Congolais comme le chantage vis-à-vis des Congolais. Si vous poursuivez, nous allons continuer à vous tuer. Si vous poursuivez, vous aurez des sangs. C'est-à-dire, c'est ça en fait la politique de Kamberé et de Kabila. Et maintenant là, il est temps de mettre fin à cette aventure. Comme nous avons des éléments. Parce que la justice congolaise a réuni des éléments. Il y a eu des témoignages. Il y a eu des gens qui ont été avec eux. Ils ont été arrêtés. Mais qu'ils viennent contredire. Ce n'est que ça. Pourquoi vous vous fouillez derrière les rapports des Nations Unies? C'est aujourd'hui que Kamberé fait crédit au rapport des Nations Unies. Lorsque ces rapports, les Nations Unies, dénonçaient les exactions des droits de l'homme au Congo, c'est même Kamberé qui passait ici pour les contredire. Qu'est-ce qui a changé? Donc, vous voyez que ce sont des gens, ici, Kamberé était ici. Ils n'ont jamais même organisé une manifestation politique et plus de 500 personnes. Et ils ont été poursuivis. Sans les armes,
sans des conciliabiles politiques, ils ne peuvent pas exister. C'est ça la vérité. Et maintenant là, ils ont pris en fait les habitants de Goma, de Bukavu, en otage à complicité avec les Rwandais où ils avaient servi pendant 18 ans. Ils vous brandissent. Ils vous disent, si vous continuez, nous allons vous tuer, nous allons vous massacrer. Il y aura toujours la guerre. Et voilà des questions que nous recevons en fait de ses disciples qui ne cessent d'être très actifs dans les réseaux sociaux et dans des situations comme ça. Donc voilà, nous sommes entrés aller avec Emolo Molo pour que nous puissions mettre fin à cette histoire-là. Parce que sur le plan des élections, ils n'existeront pas au Congo. Ils étaient ici, avant même le consistement de les activités du PPRD. Ils n'ont jamais organisé même une manifestation ici à Limika, où vous avez vu plus de 500 personnes. Jamais. C'est des conciliabiles. Ils n'ont la vie sauve politique qui est sur base des activités de Kagame au Congo. À part ça, il n'y en aura pas. Kabila vient se justifier par rapport à tout cela, et qui viennent contredire les personnes qui ont été arrêtées, qui se retrouvent maintenant devant la justice, qui viennent les contredire.
Alors, Maître Kambere va réagir aux propos que vous tenez, parce que c'est quand même grave. Hein. Maître Lingepo, on va prendre cet autre auditeur qui est déjà en ligne. Lui, il nous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Guili Papou, depuis la ville de Kisangani, je crois que Joseph Kabila peut-être jugé s'il a commis ces différents crimes. Mais le moment n'est pas favorable pour une simple raison qu'on a une agression rwandaise qui demande notre union. Vu que l'ancien chef de l'État que je respecte tant a aussi les citoyens fidèles à lui, qui risque de créer un sentiment de frustration et de déclencher une guerre civile, tribale, militaire au sein de notre pays.
Alors, Ali Dantibanda.
Oui, je voudrais d'abord rappeler à Maître Kambere que je ne suis pas dans le même sac et que peut-être qu'il m'a très mal compris parce que mes propos ont porté sur l'efficacité de l'État et de son action. Ça voudrait tout simplement dire que je commençais par démontrer effectivement que dans une situation normale, on ne discuterait pas de ce procès-là. On trouverait ça normal comme on l'a vécu en France, comme on pouvait aussi les vivre ici dans notre pays. Deuxième point de mon intervention a porté sur l'opportunité du procès par rapport au contexte. Je me suis dit que par rapport au contexte où notre armée a démontré son inefficacité et que le gouvernement venait d'élever l'option d'engager les dialogues avec nos frères qui ont pris des armes, il n'était pas utile d'engager des poursuites. Et troisièmement, je m'en moque un peu quand 500, dont l'objet de création avait déjà pris fin, continuent à participer au débat comme institution de la République sans objet, en demandant au gouvernement de ne pas engager des poursuites. Je m'en moquais parce que cela traduisait effectivement la faiblesse de l'État que je suis en train de décrire. Revenant sur le propos de notre compatriote, je crois que le propos rencontre mon intervention, qui continue à soutenir que dans une situation normale, ce procès-là n'aurait pas posé de problème. Et on ne parlerait pas des individus, on parlerait de l'efficacité de nos institutions, de la manière dont le programme du gouvernement a réussi ou n'a pas réussi, on ne serait pas en train de perdre l'État à parler de la guerre. Mais parce qu'il y a la guerre, travaillons pour renforcer nos institutions, soutenons notre État, je ne dis pas de soutenir des individus, pour que pareille situation ne revienne plus. Même quand il dit que San City n'a pas joué, San City, je continue à le dire et je le constate, qu'il a permis la construction des hommes forts en lieu et place des institutions fortes. Sinon, on ne serait pas en train de dire, si on constate, s'ils disent que Tshisekedi a posé des actes qui ne sont pas conformes à la Constitution, mais si San City avait réussi, les gens porteraient plainte contre Tshisekedi, on l'arrêterait, comme on a porté plainte contre Kabila. Mais parce que San City a construit des hommes forts, aujourd'hui, on tourne autour des pauvres. On continue à nous réconcilier, à chercher comment nous mettre d'accord, à discuter sur le processus électoral qui est toujours décrié depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. Alors, on nous dit de quoi ? Il n'y a pas longtemps, on a assisté aussi Katumbi a fui pourquoi? En 2016. N'est-ce pas parce qu'il était aussi poursuivi pour des mercenaires? Et ce procès qui avait été organisé, il avait été remis en cause par la même cour. Essayons de réfléchir sur les institutions fortes qui tombent les lits des hommes forts. C'est ça mon propos.
Alors, puisque vous avez la parole, Alidor Tchibana, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, quel scénario envisagez-vous pour la suite de ce procès?
Bon.
Et quelles pourraient être, par exemple,
les conséquences? Je n'ai pas tous les éléments.
Sur les paysages politiques.
Je n'ai pas tous les éléments autour du procès pour pouvoir m'y prononcer. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat.
En tant qu'analyste,
en tant qu'observateur, je trouve que le procès risque de nous mettre encore davantage créer encore davantage de frustrations. Et tout en sachant que c'est la justice qui élève une nation, c'est la justice qui garantit la cohésion sociale. Je crois fort bien que nous allons au dialogue, qu'on essaie de prendre des mesures d'apaisement pour permettre à ce que nous puissions tous parler le même langage et à la suite du dialogue voir qui a commis telle infraction pour qu'il soit jugé. Mais présentement, l'opportunité ne s'y prête pas.
Ferdinand Kombéré, votre conclusion?
Ma conclusion est simple, madame. Donc, je remercie d'abord le professeur parce que je comprends au moins qu'il m'a compris et qu'il a rétropédalé. Parce que dans un pays où on sait bien que l'État est à déliquescence, on ne parle plus des institutions. Vous-même dites que si Tshisekedi, comme président, est violé la Constitution, on allait le poursuivre. Mais quelle est l'institution qui pouvait le poursuivre? C'est le Parlement, c'est le Congrès, c'est la Cour constitutionnelle. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Ils auraient dû empêcher l'organisation de ces élections de 2023. Ils ne l'ont pas fait, ils ont été complaisants. Nous avons eu ce que nous avons eu. La crise ici a été annoncée par Kabuya lui-même. Et c'est ça la vérité que vous ne voulez pas. Ce n'est pas Sun City. Sun City nous a permis d'avoir 1+4, on est allé au dialogue, il y a une constitution qui a été promulguée, et c'est la mise en œuvre de cette constitution, et c'est des hommes. Là, c'est des hommes qui sont en train d'échouer, et c'est le régime de Tshisekedi qui nous a ramenés dans la crise.
Alors, conclusion,
les sénateurs là, et qui étaient dans le complot des soi-disant levées de l'immunité, est-ce qu'il a encore à dire? Quel est le rapport qu'il peut dire pour étayer ce qu'il appelle infraction? Et il devait avoir honte et se taire lorsque tout le monde sait que si le même fait y a eu un procès, mais qu'aujourd'hui Tshisekedi à genoux, ils ont signé avec les M23. Et que maintenant, vous signez avec les gens qui ont été condamnés parce que vous ne savez pas exécuter cette décision-là. Et aujourd'hui, il faut se servir du nom de Kabila pour dire, bon, les PPD là, 500 personnes, les PPD là, mais si... Et si ce que vous racontez là était la vérité, comme du reste, on le disait que l'opposition a pété, mais pourquoi on serait en train de s'acharner sur la personne de Kabila? Il n'est accusé nulle part. Rwanda, partout Merci. Où ils ont été, ils ont toujours cité le Rwanda, ils ont toujours cité le M23, et jamais Kabila. Et après ces échecs diplomatiques, ça devient maintenant l'affaire de Kabila. C'est la honte, je crois. Le régime devait se taire et continuer à rester à genoux pour accepter le dialogue proposé par la CENCO, SCC et tous les autres,
Merci,
même les Nations Unies.
Merci Ferdinand Kombéré. Michel Ngepo, votre conclusion.
Je voudrais en fait rappeler à M. Kombéré que le professeur a raison sur la mise en œuvre, parce que si nous parlons de la justice, après les Sand City, tout ce qui a été décidé comme résolution en matière de réconciliation et justice, rien n'a été mis en œuvre par Kabila. Et il le savait pourquoi. Et vous n'avez aucune
leçon... Mais ça fait 7 ans que vous êtes là.
Vous n'avez pas la parole, M. Kombéré.
Vous n'avez aucune leçon en matière de justice à nous administrer, M. Kombéré, parce que nous avons été avec vous ici. Je suis un avocat pratiquant 24 ans. Je sais comment la justice a évolué, a été administré pendant la période de Kabila. Je sais, et tu le sais comme moi, de la manière dont vous dirigez la justice.
Est-elle différente aujourd'hui?
Mais vous savez que lorsque un régime qui a été mis en place pendant 18 ans a peaufiné des stratégies pour affaiblir l'État, dans tous les plans, ce n'est pas dans 6 ans que vous allez renverser la tendance.
C'est difficile, donc, c'est compliqué de renverser la tendance.
Non, nous ne disons pas. Non, c'est difficile, c'est pas impossible. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Nous commençons par M. Kabila d'abord pour les faits sur lesquels il a été appréhendé, mais dans les sacs. Il n'a pas été cité par les rapports des Nations Unies, mais il est en complicité avec le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est là où il passe. Il passe, il complicite, c'est lui qui est le complice avec le Rwanda, il descend au Rwanda, il est protégé par les Rwandais, même quand il était à Goma, ce sont les militaires rwandais qui l'ont protégé. Donc, il a des responsabilités, qu'il vienne répondre. La nation lui a tout donné, il a payé la nation congolaise à monnaie de singe. Et il est temps que la justice militaire fasse son travail pour que les jours à venir, que les autres, comme M. Kamber et les autres, ne s'hasardent pas à poser les actes pareils. Je dis.
Merci, sénateur Michel Ingepo. Très rapidement, professeur Alidor.
Oui, j'insiste, j'ai dit, San City a échoué.
Vous l'avez déjà dit.
Repartons sur de nouvelles bases pour rendre notre État plus fort et capable de répondre à toute éventualité. Si San City n'avait pas échoué, on ne serait pas là.
Merci,
et nous faisons semblant, nous faisons semblant d'avoir des institutions démocratiques, d'avoir des systèmes. En réalité, nous savons que le départ était biaisé et c'est les conséquences. Tout ça,
merci,
à quoi on assiste aujourd'hui sont les conséquences.
Merci, professeur Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Nok Kiatumbi, Jean-Claude Siala, Dieudonné Nyangasa. Présentation de ce magazine et coordination Kéline Couté. Restez branchés sur Radio Capi.